Bonsoir à tous. Le meilleur d'entre nous entre au Conseil constitutionnel. Alain Juppé va quitter la mairie de Bordeaux. L'ancien Premier ministre est proposé par Richard Ferrand pour remplacer Lionel Jospin parmi les sages. Il dit sa grande émotion, s'adressera aux Bordelais demain matin, dont il est le maire depuis 95. Jacques Mézard et François Pillet siégeront avec lui. Je ne suis ni un sale gitan, ni un casseur de flics. Le boxeur de gendarmes joue profil bas. Christophe Détinger est au tribunal après ses coups à Paris sur deux militaires début janvier. Au sommaire également ce soir, un nouvel avocat pour Carlos Ghosn, mais plus d'indemnité de départ de Renault. Le budget de Pedro Sanchez retoqué en Espagne. Les victoires de la musique classique, nous serons à la scène musicale. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, on va parler bien-être, Sébastien, ce soir. Respirer bleu, d'accord, faire du sport, manger sain, tout ça c'est formidable. Sauf quand ça devient une obsession, voire une tyrannie. L'obsession du bien-être est-il en train de faire de nous des êtres certes très en forme, mais tellement gris et triste quand on s'acharne? Pourquoi nos sociétés confondent-elles bien-être et bonheur? Qu'est-ce que ça fait de nous? On en parle au 01 45 24 7000.
France Inter. Il y avait trois postes à pourvoir. On attendait donc trois noms pour entrer au Conseil constitutionnel pour remplacer Michel Charras, Jean-Jacques Hyest et Lionel Jospin. Eh bien, ce seront l'ancien ministre Jacques Mézard, le sénateur François Pillet et l'ancien Premier ministre Alain Juppé. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Alain Juppé, c'est une surprise. Il va donc quitter la mairie de Bordeaux.
Oui, coup de tonnerre en Gironde où personne ne s'attendait à un départ si brutal. J'ai failli tomber de ma chaise, reconnaît son ami Dominique Bussereau. Alain Juppé va laisser un grand vide à Bordeaux après 24 ans de règne. Il a métamorphosé cette ville et n'avait pas vraiment préparé sa succession. Alain Juppé va donc quitter Bordeaux et la scène politique. Il respectera son devoir de réserve et Emmanuel Macron ne pourra donc pas compter dessus pour la campagne des européennes. Pendant un temps, certains le voyaient sur la liste. Ça nous aurait fait très mal, reconnaît un poids lourd de la droite. Tant mieux, cette sortie par le haut nous libère et en plus il arrêtera de taper Laurent Wauquiez, ajoute-t-il. Alain Juppé en avait marre de ses allers-retours Paris-Bordeaux et des guéguerres politiciennes, confie un de ses anciens amis. Lui qui a commencé sa carrière à la mairie de Paris dans les années 80, le fils préféré de Jacques Chirac, comme on le surnommait parfois, Premier ministre, président de l'UMP, ministre de Nicolas Sarkozy, puis pendant deux ans, favori de la présidentielle, jusqu'à sa défaite surprise à la primaire de la droite. À 73 ans, Alain Juppé va donc devenir l'un des sages de la rue de Montpensier, un mandat de 9 ans, aux côtés de son ancien adversaire, devenu président du Conseil, Laurent Fabius.
Alain Juppé exilé aussi pendant deux ans au Canada après sa condamnation. Les deux autres choisis sont donc François Pillet et Jacques Mézard. Mézard, choix d'Emmanuel Macron qui ne plaît pas beaucoup aux sages.
En effet, Laurent Fabius avait discrètement fait connaître ses réticences. Les sages n'aiment pas beaucoup ce genre de recasage, dit-on, dans les couloirs du Conseil. Un ministre sortant, au caractère un peu ténébreux, ça ne nous emballe pas, m'a confié un membre du Conseil. Emmanuel Macron l'avait fait sortir du gouvernement en octobre dernier, mais n'a pas oublié qu'il était l'un des premiers sénateurs à le soutenir, à l'aider dans sa collecte des parrainages. François Pillet, 68 ans, a lui un profil beaucoup plus consensuel, ancien avocat, sénateur d'hiver droite du Cher. Cela fera en tout au Conseil 6 hommes et 4 femmes.
Et ces trois noms doivent donc être formellement entérinés par le Parlement. Merci Maxence. Trois noms mais un particulièrement commenté. Bonsoir Karine Bécard.
Bonsoir.
Vous êtes à l'Assemblée Karine, celui d'Alain Juppé évidemment.
Oui, c'est une surprise jusque dans les rangs de la majorité qui manifestement n'avait pas été mise au courant. Même Marie Guévenoux, qui est aujourd'hui une députée de La République En Marche et qui avait fait toute sa campagne pendant les primaires en 2016, la campagne bien sûr d'Alain Juppé.
On a besoin de gens de sa qualité et de sa stature au Conseil constitutionnel. On a besoin de gens expérimentés, de gens responsables, de gens rigoureux. Et Alain Juppé est de cela.
En fait, la vraie surprise, c'est de voir le maire de Bordeaux, tellement attaché à sa ville, se décider finalement aujourd'hui de la quitter. La faute peut-être à la crise des Gilets jaunes, à sa violence, est en tout cas l'analyse du député Les Républicains, Philippe Gosselin.
Il a exprimé à plusieurs reprises, non pas la lassitude du mandat, mais la lassitude de telle situation et une forme peut-être aussi d'impuissance. Non, je pense que c'est une opportunité qui se présente peut-être effectivement à un moment particulier, singulier de la vie politique, de sa vie aussi peut-être personnelle.
Alors tout le monde n'est pas aussi bienveillant à droite. Dans la famille d'Alain Juppé qui avait fondé, souvenez-vous, l'UMP, beaucoup considèrent que cette future nomination est un cadeau de remerciement de la part d'Emmanuel Macron. Mais l'attaque la plus dure, malgré tout, vient des rangs de la gauche. L'insoumis Alexis Corbière rappelle ce soir son passé judiciaire, pas assez intègre donc pour avoir toute sa place au Conseil constitutionnel.
Monsieur Juppé, peut-être qu'il nous répondra qu'il a fait ça pour quelqu'un d'autre, mais est un homme qui tout de même a fait des choses qui durant sa vie politique, d'élu, qui ont amené à ce que pendant quelque temps, n'a plus pu bénéficier de ses droits. Je pense que M. Juppé, qui après a été sanctionné et qui a gardé une dignité face à la sanction, aurait dû peut-être se décaler face à cette responsabilité.
En tout cas, reste un mystère ce soir. Qu'est-ce qui a décidé Alain Juppé, à 73 ans, de faire ce choix qui signe cette fois la fin de son parcours politique?
Karine Bécard en direct de l'Assemblée nationale avec Alexandre Abergel. Et donc, point presse demain du maire de Bordeaux. C'est à 11h.
Il avait deux titres de champion de France des lourds légers.
Mais c'est pour ses coups portés contre deux gendarmes qu'il est devenu l'un des visages de la violence des gilets jaunes. Le boxeur Christophe Détinger, filmé le 5 janvier à Paris pendant leur 8e samedi de mobilisation et qui s'était présenté à la police deux jours plus tard avant d'être placé en détention. Bonsoir Laurélie Carive.
Bonsoir.
Il a tenté de faire amende honorable à son procès.
J'ai fait une grosse erreur, je regrette, c'est ce qu'a répété plusieurs fois Christophe Détinger devant une salle d'audience pleine à craquer. En voulant empêcher une injustice, j'en ai créé une autre, dit l'ancien champion de boxe, au crâne rasé et à la fine moustache. Pour comprendre ce qui s'est passé, le tribunal visionne une série de vidéos tournées ce samedi 5 janvier sur la passerelle Léopold de Senghor. Au vu des images, il n'y avait aucune obligation pour les manifestants de forcer le passage, observe la présidente. Madame, pour moi, les forces de l'ordre nous ont parqués. Et ils nous ont gazés ensuite. Tout est allé très vite, explique Christophe Détinger, qui affirme avoir été gagné par une colère extrême en voyant une femme à terre, matraquée, dit-il, par un gendarme. Un murmure parcourt la salle quand repassent les images, pourtant devenues familières, des coups qu'il porte alors à deux fonctionnaires. Seul l'un est présent ce soir, l'autre est en rééducation, il a toujours du mal à marcher. Tout de suite, on m'a catalogué, regrette le boxeur, on m'a traité de gitan, de casseur, d'extrême, de lyncheur de flic. Je ne suis pas cette personne-là, je m'en veux terriblement. On attend désormais les réquisitions du procureur. Au tribunal correctionnel de Paris, Laurélie Carive, France Inter.
Merci Laurélie. Le gilet jaune Jérôme Rodriguez est venu soutenir Christophe Détinger au tribunal. Il a été blessé au visage, lui, le 26 janvier et il annonce qu'il a perdu son œil. Quant au chariot élévateur contre la porte cochère du ministère de Benjamin Griveaux, rue de Grenelle, également lors du 8e samedi de mobilisation des gilets jaunes, eh bien, les gardes à vue sont prolongées. Une femme et cinq hommes qui ont entre 21 et 54 ans. L'un d'eux serait celui qui conduisait l'engin. Et puis pendant ce temps, discrètement, revoici la taxe carbone accusée d'être à l'origine de la crise et donc rapidement écartée, mais qui se réinvite dans le débat avec cette tribune de 86 députés, notamment de La République En Marche, qui appelle à trouver une fiscalité carbone efficace. Emmanuel Macron recadre les troupes. Une hausse de la fiscalité n'est pas la réponse à la colère.
Ça fait presque trois mois maintenant qu'il est détenu à Tokyo.
Et Carlos Ghosn change de stratégie de défense pour préparer son futur procès et rétablir son innocence, dit-il dans un communiqué. L'ancien président de Renault, Nissan et Mitsubishi fait appel pour ça à un nouvel avocat, maître Junichiro Hironaka, habitué des médias, défenseur des célébrités et des politiques célèbres au Japon, où il est surnommé l'artiste des acquittements. Carlos Ghosn, qui perd par ailleurs ses indemnités de départ de Renault. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
Le constructeur annule sa rémunération en action.
Oui, gros manque à gagner pour Carlos Ghosn, hein, 30 millions d'euros qui n'iront pas dans ses poches. Il y a d'abord donc ses actions qui lui revenaient, que l'ancien PDG aurait dû pouvoir monnayer cette année. C'est un fait, certes, mais son contrat stipule, et c'est important, que ses actions ne peuvent s'acquérir qu'à condition d'être toujours présent dans l'entreprise. Et c'est là la subtilité, car juridiquement, oui, Carlos Ghosn est toujours administrateur de Renault, mais physiquement, force est de constater qu'à 10 000 km, il est aujourd'hui absent. Et c'est ce critère-là que le conseil d'administration a décidé de retenir à l'unanimité. Renault ne lui versera pas non plus les 4 millions d'euros de primes de non-concurrence qu'il aurait pu réclamer. En revanche, lui reste deux choses à Carlos Ghosn. Un, sa retraite confortable, on parle de 63 000 euros par mois. Et deux, sa rémunération pour 2018 qui reste à trancher, 1 million d'euros à coup sûr pour l'année, auquel s'ajoute notamment une part variable, encore difficilement estimable, car fonction des résultats, car une partie ne sera dévoilée que demain. Surtout, on ne sait pas encore si cette part variable lui sera réellement versée. Le conseil d'administration se donne encore un mois pour en décider.
Merci Maxime Debs. C'est une des manières de se faire verbaliser sur la route, les caméras de vidéosurveillance. Eh bien, à Paris, la préfecture de police a décidé de les braquer un peu plus, ces caméras, sur les carrefours et les passages piétons. 900 caméras dans la capitale et des écrans scrutés en permanence à la préfecture, où est allée Sylvie Charbonnier.
Derrière leurs écrans, une vingtaine de fonctionnaires scrutent nos comportements au volant. Je me suis installée auprès de l'un de ces agents avec, pour les explications, le brigadier chef Benac.
Actuellement, on a un agent donc qui a deux écrans et il va cibler une infraction qui va être dans la voie de bus.
Par exemple, là, c'est le cas là.
Voilà, par exemple, on
voit une voiture.
Un véhicule gris qui est stationné dans la voie de bus alors qu'elle n'a pas à y être. Nous allons procéder à un zoom sur la plaque d'immatriculation pour qu'on ait l'identification du véhicule la plus nette possible.
Voilà, tout à fait.
Vous avez donc le cliché sur la droite qui vient d'être établi. Et à l'issue de ça, nous allons renseigner toutes les informations concernant le titulaire de la carte grise.
À partir de là, verbalisation électronique pour ce qui est visible sur les images, pas de casque, pas de ceinture, un téléphone au volant, avec désormais deux infractions particulièrement visées, le refus de priorité à piétons, 19 piétons tués quand même l'an dernier à Paris, et l'encombrement des carrefours, contre lesquels veut lutter le préfet de police Michel Delpech.
Nous allons pouvoir verbaliser le fait de s'engager dans un carrefour encombré, et en se donnant la certitude, par l'analyse des images, que l'on peut effectivement montrer que c'est bien le véhicule A qui s'est engagé dans des conditions telles qu'il est responsable.
Donc notez-le bien, hein, si la caméra montre que vous avez provoqué un embouteillage en vous engageant dans un carrefour, 90 euros d'amende. Si vous refusez la priorité à un piéton, 90 euros et 6 points de permis en moins.
Et toujours à propos de la route, l'Élysée s'apprête à annoncer un plan à 700 millions d'euros sur 5 ans pour développer les batteries électriques de nouvelle génération. En 2015, 7 Français sur 10 allaient travailler en voiture, d'après une étude de l'INSEE publiée aujourd'hui. Eux sont en campagne dans le Lot ce soir à Souillac, où Emmanuel Macron est venu participer à un grand débat de presque 7 heures. C'était le 18 janvier. La tête de liste de la France Insoumise pour les européennes, Manon Aubry, et le numéro 2, Manuel Bompard. Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
Premier meeting commun voulu au plus près des habitants.
Et les habitants, on les rencontre d'abord en gilet jaune à l'entrée de Souillac. Annick, Daoud, Chantal sont là depuis le 17 novembre.
Bonjour.
Il est bien passé ici, Macron.
Ah oui, on vous le confirme. Sauf qu'on l'a pas vu, hein.
J'étais parqué comme un mouton. Et puis j'étais là la veille, en plus, pour être sûr d'être là.
Il y avait à peu près autant de CRS et de gendarmes mobiles que d'habitants dans cette ville, donc c'est un peu étrange à vivre.
Près du beffroi, aux couleurs café, une conférence de presse avec les candidats locaux, Manon Aubry et Emmanuel Bompard, les têtes de liste.
Vous remarquez que nous, on échange avec des citoyennes, des citoyens. On le fait dans la rue, on n'a pas besoin de boucler la ville, ni de boucler les environs. Puis on rencontre des citoyens directement, pas uniquement des maires. Voilà, moi je crois que c'est important de faire ce travail-là pour ces territoires ruraux qui sont souvent les plus oubliés, les moins considérés des politiques qui sont mises en œuvre.
Pour autant, les Gilets jaunes ont prévenu, ils ne viendront pas ce soir.
Non, mais c'est pas pour la... On est plus ou moins dans les idées France Insoumise, mais pour aller écouter les mêmes discours chaque fois... Voilà, nous on veut de l'action maintenant.
Dans le café où se déroule la conférence de presse, François, lui, est à fond.
19h30, ouais, au Palais des Congrès, là.
19h30, je vais venir, bien sûr.
Ah oui, c'est...
Je suis un insoumis, moi, mais un véritable.
Et il promet de ramener son fromage, son béret et ses copains.
Laurence Perron en direct du Palais des Congrès de Souillac avec Laurent Lucas. Deux nouvelles interpellations dans l'enquête sur le convoyeur de fonds parti avec 3 millions d'euros et qui a été arrêté hier soir à Amiens avec une bonne partie du butin. Une complice avait été arrêtée également. Eh bien, un frère et une sœur sont aussi en garde à vue. La jeune femme serait la locataire de l'appartement où le convoyeur tentait de se cacher.
Verte et législative anticipée en Espagne.
Après le rejet au Parlement du premier projet de budget du gouvernement de Pedro Sanchez, rejet attendu Marie-Hélène Ballestero, puisque les deux partis indépendantistes catalans avaient annoncé qu'ils voteraient contre.
Par conséquent, les amendements sont approuvés et donc le projet de budget de loi 2019 est rejeté.
Comme prévu, il n'y a pas eu de surprise de dernière minute. Jusqu'à la fin, les nationalistes basques Podemos et les socialistes ont tenté de convaincre les indépendantistes catalans de débloquer la situation. Mais ces derniers avaient mis la barre trop haut. Pour soutenir le budget de Pedro Sanchez, ils réclamaient en contrepartie que soit accepté le droit à l'autodétermination du peuple catalan. Une ligne rouge que le gouvernement socialiste a rejetée. Résultat, le budget annuel n'a pas été approuvé au Parlement et par conséquent, Pedro Sanchez se retrouve dos au mur avec une législature qui semble toucher à sa fin. Ce qui ravit le leader de l'opposition et président du Parti populaire, Pablo Casado.
Aujourd'hui, nous avons contribué à la prise d'une décision au Parlement qui marque, je crois, un point d'inflexion dans la législature. Ou plutôt, cela marque la fin du voyage de Pedro Sanchez à la tête du gouvernement. Je veux transmettre un message de confiance à tous les Espagnols. Le Parti populaire reste le principal parti en Espagne. Et nous sommes prêts à revenir à la tête du gouvernement.
9 mois après son arrivée au pouvoir, Pedro Sanchez est sur la sellette. Vendredi mercredi prochain, il devrait convoquer des élections législatives anticipées à la sortie du Conseil des ministres. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
La grève presque partout aujourd'hui en Belgique. Aucun avion, peu de transport en commun, des piquets aussi dans les écoles, les hôpitaux, la poste ou les administrations. Grève générale à l'appel des principaux syndicats du pays pour réclamer de meilleurs salaires. En Égypte, le président Sissi assoit encore un peu plus son autorité. Il est au pouvoir depuis 2014 et il peut potentiellement y rester jusqu'en 2034. Explication avec Martin Roux au Caire.
La réforme de la Constitution portée par l'écrasante majorité présidentielle revient sur l'un des acquis de la révolution de janvier 2011, la limite à 2 mandats pour le président de la République, mandat également étendu de 4 à 6 ans. Cette réforme permettrait ainsi au président Al-Sisi de rester au pouvoir 12 ans de plus jusqu'en 2034. Dans un contexte de répression sans précédent, cette révision constitutionnelle renforce encore le pouvoir autoritaire du président Al-Sisi, dénonce Human Rights Watch. L'amendement soumis à un premier vote demain porte aussi un coup à l'indépendance de la justice. Des voix d'opposition tentent bien de se faire entendre et envisagent déjà de mener campagne pour le non lors du référendum prévu au plus tard début mai. Mais dans l'Égypte du président Al-Sisi, les médias sont soumis au strict contrôle des autorités et les ONG dénombrent plus de 60 000 prisonniers politiques. Le Caire, Martin Roux, France Inter.
On ne change pas une équipe en déroute. Le sélectionneur du 15 de France conserve le même groupe que celui écrasé par l'Angleterre le week-end dernier pour affronter l'Écosse. De quoi agacer encore davantage les observateurs Cécilia Arbona et faire douter les joueurs.
Une ardoise magique pour tout réinventer. Voilà le cadeau que voudrait envoyer en chronopost à Jacques Brunel des internationaux dépités par le naufrage des Bleus. L'ancien demi d'ouverture Yann Delegue déplore le côté buté du sélectionneur.
Jacques Brunel considère en fait que les meilleurs joueurs français, il les a sélectionnés. Lui choisit justement de s'obstiner avec ces joueurs-là en leur donnant toute la confiance. Il leur adresse un message assez fort finalement. De dire c'est vous qui ferez la Coupe du Monde, c'est sur vous que je compte.
Avec ce groupe inchangé, Guy Akosseberry, ex-demi de mêlée des années 90, a bien voulu imaginer avec nous des combinaisons qui pourraient apporter fraîcheur, vélocité et culot.
Moi, ce que j'espère personnellement, c'est qu'il va lancer dans le grand bain un peu plus de jeunesse. Devant, il n'y a pas énormément de choix. Par contre, il a la possibilité de modifier les choses derrière. Romain Tamac, le positionner, pourquoi pas, en numéro 10. Damien Penaud, qui a été, je trouve, le meilleur français à Twickenham, je le repositionnerai au centre, quitte à l'associer avec Bastaro, comme père de famille. Le talonneur de La Rochelle aussi, qui était remplaçant le week-end dernier, qui rentrait en fin de match. Dans la même soupière, en changeant les ingrédients, on peut avoir une meilleure soupe. Quoi.
Trop tard, soupirent certains pour lesquels le potage, même revisité, est déjà fichu.
Et ce match France-Écosse au tournoi Destination a lieu dans 10 jours au Stade de France. Ça vous dit quelque chose ?
Non, jamais entendu cette musique.
Moi non plus.
Ça ne marchera jamais.
C'est les victoires de la musique classique ce soir. En direct, à partir de 21h, de la scène musicale à Boulogne-Billancourt. 26e édition, beaucoup moins de trophées qu'à l'autre cérémonie des victoires la semaine dernière. 7 au lieu de 13, dont une victoire d'honneur au pianiste Lang Lang. Ça n'est pas lui qui joue, c'est bien sûr le boléro de Ravel. Pour le reste, bonsoir Stéphane Capron.
Bonsoir Sébastien.
C'est la jeunesse qui sera à l'honneur ce soir.
Oui, car nous sommes à la scène musicale et dans ce lieu dédié à la musique, on pense beaucoup à la transmission vers les jeunes publics. Le bâtiment a la chance d'héberger tout au long de l'année dans ses murs l'Académie de Philippe Jarouski. Le contre-ténor souhaite faire bénéficier de son expérience à des jeunes éloignés de la pratique musicale. Alors ce soir, des musiciens de 8 à 11 ans vont jouer du Schubert avec leur professeur. Il y aura aussi la maîtrise des Hauts-de-Seine qui va chanter des airs de Carmen de Bizet. Aux victoires de la musique classique, les récompenses les plus attendues, ce sont les révélations de l'année pour le soliste instrumental et pour l'artiste lyrique, car cela peut accélérer une carrière. La soprano Julie Fuchs en a fait l'expérience lorsqu'elle a reçu la victoire de la révélation en 2012.
Ça peut être à double tranchant une victoire quand même, parce qu'on nous confie ça, puis après on nous observe bien pour voir ce qu'on en fait. Ça peut être aussi quand même une pression. Enfin, moi j'ai vécu ça comme un moment très réjouissant. Je pense qu'il ne faut pas non plus miser là-dessus, c'est sûr qu'en termes de grand public, le fait d'être en première partie de soirée à la télévision, c'est un grand cadeau pour un chanteur et pour la musique.
2 ans plus tard, Julie Fuchs recevait la victoire de l'artiste lyrique de l'année. Et ce soir, elle n'est pas nommée, mais elle va chanter un extrait de son dernier album, Mademoiselle, consacré au répertoire du bel canto, avec un extrait de la Cenerentola de Rossini. «
Stéphane Capron en direct de la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Merci Stéphane. Les victoires de la musique classique, c'est à partir de 21h en direct sur France 3 et chez nos voisins et amis de France Musique.
Sébastien Paour, merci beaucoup. On se retrouve demain. Sébastien, on reste ensemble. Nous, pour le téléphone sonne ce soir, on parle bien-être. Tiens, mettez-vous donc dans la position du lotus. Sinon, il fait beau et c'est pas mal, non?
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton. Et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Un temps calme et ensoleillé demain, Sébastien Léas.
Oui, on va faire le plein de vitamine D. La majeure partie du pays va profiter du soleil dès les premières lueurs du jour jusqu'à la tombée de la nuit avec un ciel quasiment tout bleu. Un peu comme aujourd'hui, des nappes de grisaille retarderont quand même l'arrivée du soleil par endroits. On retrouvera ces nuages bas et brouillards dans les coins habituels entre le Val de Saône et le Lyonnais, en pleine d'Alsace, du plateau lorrain au Hauts-de-France ou encore près de la vallée de la Loire. D'autres grisailles se formeront aussi sur le sud du Finistère et en Nouvelle-Aquitaine. Mais ces humidités de basse couche auront généralement disparu avant la mi-journée et l'après-midi sera ensoleillé. Sur le Languedoc-Roussillon, les nuages venus de Méditerranée commencent à s'accumuler en ce moment et vont même se densifier, donnant une matinée plutôt grise. Cette couche nuageuse va peu à peu se morceler demain pour laisser place à des éclaircies, le ciel restant plus variable sur le département de l'Aude.
Sinon, Sébastien, gelée matinale mais douceur l'après-midi.
Oui, la moitié nord et le centre-est auront le plus souvent des températures négatives cette nuit jusqu'en matinée. En revanche, avec l'appui du soleil, les maximales seront largement au-dessus des valeurs de saison, dépassant partout la barre du 10 degrés. On attend 11 degrés au Havre, 12 degrés à Nancy et à Brest, 13 degrés à Paris et à Tours, une ribambelle de 15 degrés à Aurillac, à Lyon, à Nîmes, à Toulouse ou encore à Calvi, et on ira même jusqu'à 18 degrés du côté de Pau et de Draguignan.
Sébastien Léas de Météo France, merci Sébastien, à demain.